Il est 20h01 sur RMC, avant de repartir sur la route du Tour, l'intégral Tour avec Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. Je rappelle que le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live aussi, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos messages. N'hésitez pas, Thierry et Lucho vont répondre dans quelques instants, juste pour vous rappeler quelques résultats sport de la journée, avec pour l'instant l'équipe de France de Coupe Davis qui est menée 2-1 par la Grande-Bretagne. Le double Murray, les frères Murray ont gagné contre Tsonga et Mahu. Demain donc il faudra pour les Français gagner les deux derniers simples pour espérer voir les demi-finales. On vous en parle évidemment avec toutes les réactions sur RMC depuis ce matin. Le décès de Jules Bianchi, le pilote français de Formule 1, suite à son accident il y a 9 mois sur le circuit de Suzuka lors du Grand Prix de Formule 1 du Japon. Il est décédé hier soir après 9 mois de coma. Pas de médaille pour les escrimeurs français au championnat du monde aujourd'hui à Moscou, avec la 5e place pour les garçons par équipe donc à l'épée, et la 4e place pour les filles. Demain ce sera le dernier jour de compétition avec le fleuret, et puis le volley en ce moment, demi-finale de la Ligue mondiale France-Pologne. On suit ça avec toi, Benjamin Glaise. On en est où?
Ça avait bien commencé pour les Bleus, c'est un peu plus difficile hein. Les Polonais, champions du monde en titre, se sont réveillés. Les Bleus avaient remporté les deux premiers sets 25-23. Finalement les Polonais ont remporté la 3e manche 25-19. On est actuellement dans le 4e set et c'est irrespirable, 11-10 pour la Pologne, c'est très serré Martial.
Et tout ça pour une place en finale contre la Serbie qui a battu en 5 manches les États-Unis. Thierry Bourguignon et Luc Leblanc sont là avec nous, rebonsoir messieurs.
Rebonsoir. Salut. Martial.
Et le 32-16 ouvert, Lucho, Bourgui, le hashtag RMC Live aussi pour poser toutes vos questions sur cette étape du Tour de France. Je vais juste rappeler que c'est le Britannique Stephen Cummings qui l'a emporté aujourd'hui du côté de Mende dans la montée finale, en étant revenu sur les deux Français qui étaient devant, Bardet et Pinot. Évidemment, on va en reparler parce que les Français avaient une occasion et ils l'ont laissé passer au classement général. Pas de changement pour le maillot jaune, Chris Froome toujours leader. Il y a un petit changement à la 2e place puisque ça n'est plus l'Américain TJ Van Garderen qui a laissé filer quelques secondes dans la montée sur Mende. C'est maintenant le Colombien Nairo Quintana. Première question au 32-16, on est avec René. Bonsoir René.
Oui, bonsoir.
Bonsoir René. Bonsoir, René.
Oui, bonsoir donc Luc et Lucho et puis Thierry Bourguignon. Bon, je suis un ancien coureur amateur. Bon, c'est dommage, il n'y a pas Cyril. J'ai couru avec lui le premier Panalop, ça c'est tout pour l'historique. Et je reviens sur la stratégie. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la stratégie de Monsieur Marc Madiot, avec ses trois coureurs qui étaient dans la contre-attaque là sur les. Et il a annoncé un peu trop à mes yeux la couleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il aurait dû, avec 20 secondes d'écart maxi, il aurait dû quand même laisser travailler les autres équipes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il a pris un peu trop, oui, trop la course en main, et après voilà. Les autres n'ont pas participé, voilà. C'est ça le problème. Et à partir de là, ben ils étaient obligés de rouler sur ceux qui attaquaient, de rouler après parce que personne voulait participer,
oui,
ou très
fait,
peu.
Oui. Sans que l'écart grandisse, oui.
Et ouais, c'est clair que vous avez pas tort là-dessus.
Ça vous y avez pensé un peu à votre niveau?
Ben oui, mais bon, ils étaient trois, ils étaient en surnombre, mais qui prennent la course comme ça, c'est sûr que les autres se sont reposés sur eux. Hein,
c'est tout clair. À fait, c'est mon point de vue aussi.
Mais bon, c'est voilà.
Ils se sont trop découverts.
Trop vite découverts. Ouais.
C'est pas ce qui a fait que il n'a pas gagné, c'est ça le truc. Hein. Ils avaient pris la course en main, ils avaient annoncé la couleur et il était capable de le faire sans compter sur Cumming.
Entendu dans mes amis qui suivent le tour l'après-tour, on en a discuté. La première chose qu'un copain qui fait du sport m'a dit, t'as vu un peu la stratégie. Bon, et puis je voulais juste aussi revenir si c'est pas quand on dit le Cummins, l'allure où il a passé, c'est vrai, il est bravo pour sa victoire, mais quand même, si on regarde, si on fait un flashback, on regarde un peu la vidéo, vous avez Pinot qui le regarde passer. Hein.
Oui.
Au 500 mètres, Pinot le voit passer. Donc là, il y a quand même, à mes yeux, une erreur.
Hein. Il ne saute pas dans la roue tout de suite, hein,
voilà,
c'est clair.
Tout à fait, voilà. Voilà.
Alors, c'est vrai qu'il avait une vitesse plus élevée que nos deux Français, mais c'est vrai que. Sur la télévision, on voit les coureurs se tourner un petit peu, on a l'impression qu'ils le voient y arriver, et puis ils le regardent passer, simplement.
Tout à fait. Bon,
après.
Je pense qu'ils sont quand tous déçus, tous les deux.
Et puis, oui, c'est les premiers punis, c'est eux, hein, quand même. Donc, c'est clair, c'est facile après. Hein. C'est
non,
facile
non,
après.
Tout à fait, je suis Oui. C'est ce qui se passe. Bon, je vous remercie de cette explication, ces explications.
Merci René.
Allez, bonne soirée. Merci,
merci à toi René, merci de nous avoir appelé au 32-16. On a des petits messages aussi pour Jean-Christophe Perrault. Gros clin d'œil à JC Perrault sur le hashtag RMC Live de Le Gosbo. Je savais qu'il n'avait pas envie de rentrer à la Casa tout de suite, même avec une jambe cassée. Antoine qui répond, Antoine Bonino. Beau coup de cœur, de courage et de professionnalisme. Bel exemple, ce Perrault. C'est vrai quand même, les gars.
Ah, c'est clair, on l'a dit hier soir. Hein. Là, franchement, moi je dis chapeau. Non, c'est ce matin que j'ai fait un coup de chapeau à JC, parce que franchement, avec les galères qu'il a traversées toute la première semaine, plus cette grosse gamelle et avec la chaleur, c'est franchement
88e de l'étape compliqué. Aujourd'hui, hein, dans, ouais. Bon, dans un peloton à 12:39, et il y a beaucoup de monde derrière lui. Donc ça veut dire qu'il s'est bien accroché. Bertrand au 32-16. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Bourgui, salut Lucio.
Salut Bertrand.
Alors je voulais appeler parce que là aujourd'hui, depuis le début du tour, depuis une grosse semaine déjà, pendant les Pyrénées, j'ai un gros souci avec l'équipe, un souci technique, avec la tactique plutôt, avec l'équipe Movistar et plus particulièrement avec Valverde. Il me semble qu'il n'est pas prêt à se sacrifier pour son leader, ce gars-là. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en dire, où je veux en venir. C'est que Valverde, depuis le début, il suit très bien, mais ne prend aucun relais, n'essaye même pas de fatiguer l'équipe Sky. Et arrivé comme ça, en dernière semaine, il va se retrouver quatrième. Et le jour où il va y avoir un petit problème avec Quintana, s'il a un jour sans, il va avoir beaucoup de mal à se sacrifier, à l'attendre et à l'accompagner. J'ai un peu l'impression de voir un peu le Froome avec Wiggins il y a 2-3 ans. Ils n'ont pas le maillot, le maillot jaune. Mais il me semble qu'il n'est pas prêt à se sacrifier pour un leader, Valverde. Et une petite dernière parenthèse, c'est que ce qui me fait dire ça aussi, c'est qu'il avait laissé filer l'année où Rui Costa est champion du monde, il l'avait laissé filer pour revenir, quand il était revenu sur Porito pour le déposer. Donc il y a des trucs qui m'embêtent avec ce coureur-là.
Lucho, qu'est-ce que tu en penses, Valverde, par rapport à Quintana?
C'est difficile à dire. Valverde, c'est sûr, il court pour lui, mais de toute façon, il est bien placé au classement général. Donc à la fois il peut courir pour Quintana, et à la fois il va pas courir contre Quintana. Après, il était avec Contador, il attaque Contador, il part tout seul, il ramène pas Contador sur Quintana. Donc il veut garder sa place au classement général, Valverde. Donc
il est quatrième,
c'est normal aussi, ouais. Ouais.
Le problème, c'est que l'équipe Movistar en montagne, ça se résume à Quintana et Valverde. Et qu'à un moment donné,
c'est déjà pas mal,
Quintana,
hein.
il va pas pouvoir se gagner le Tour de France seul. S'il peut le gagner, forcément, à un moment donné, il va falloir que Valverde prenne les rênes d'un groupe, se mette en quatre. Bon, ça viendra, mais à un moment donné, ou alors ils nous disent tout de suite qu'ils veulent gagner le Tour de France par équipe, et puis comme ça on n'en parle plus.
A priori Valverde doit faire le travail pour Quintana cette année. Quand on remonte, c'est deux ans en arrière, c'est Quintana qui avait fait le boulot pour Valverde. Donc maintenant il échange de bons procédés, c'est Valverde qui doit faire le boulot pour Quintana. De toute façon on le verra bien dans les Alpes, hein. Mais quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le plateau de Bay, Valverde a commencé à attaquer Froome, mais Quintana a contré par derrière. Donc Valverde a fait quand même un peu le boulot pour Quintana dans le plateau de Bay, en voulant mettre en difficulté Froome. Donc je vois pas Valverde courir contre Quintana, je pense pas.
Je dis pas qu'il court pas contre Quintana, je dis qu'il court pour lui, c'est ça que je veux dire.
Oui. Bah, de toute façon, voilà. C'est deux têtes, hein, c'est deux têtes, deux leaders, deux grands leaders. Mais moi, je trouve que c'est ce qui fait la force de Movistar, c'est qu'ils ont deux leaders et qui sont capables d'être sur la fin et de pouvoir. Valverde a montré, comme dit Lucho, a montré qu'il avait attaqué et mettre en difficulté au départ l'équipe de la Sky pour que puisse en tirer les fruits à Quintana. Moi, merci. Je pense que c'est une aide. Bon, et s'il peut faire le podium, Quintana est deuxième et troisième Valverde, il va pas s'en priver, ça c'est clair.
Mais pour l'instant, on a Quintana deuxième à 3.10 puisqu'il est passé devant Van Garderen. Van Garderen intercalé à 3.32 et quatrième Valverde à 4.02. Merci beaucoup Bertrand, nous avoir appelé au 32.16. À bientôt.
Merci Bertrand.
Au
revoir. À bientôt.
À bientôt. Appelez-nous 32.16 ou alors sur le hashtag RMC Live pour poser toutes vos questions à Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. On suit aussi en ce moment la demi-finale du Final Six de la Ligue mondiale. C'est à Rio avec l'équipe de France face à la Pologne. Équipe de France qui mène 2-1. Mais attention, les Polonais sont en tête du quatrième set. Ils mènent pour l'instant 19-15. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
20h14 sur RMC, on en a deux patrons, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc, pour répondre à toutes vos questions au 32-16 ou alors sur le hashtag RMC Live. Bourgui, Lucio, question de Mathias sur le hashtag RMC Live. Pensez-vous que Quintana peut gagner dans les Alpes? On sait que Froome connaît des difficultés en fin de grand tour, souvent.
Ah ouais? Bah, j'ai pas souvenir. Il y a deux ans, tout le monde devait lui mettre la misère dans la dernière étape du Ventoux. C'est lui qui a mis tout le monde d'aplomb.
Lucio?
Oui, moi je suis comme Thierry là. Je vois mal comment ça peut se dérouler.
Un homme de 3 semaines quand même, Chris Froome.
Oui, après Quintana peut éventuellement le mettre en difficulté aussi, hein, c'est clair. Mais dire qu'il a toujours une dernière semaine difficile, j'ai pas souvenir. Hein.
Ouais, moi non plus, franchement, moi non plus. Quand il était en capacité de gagner le tour, quand il a gagné le tour il y a deux ans. Il a pas eu un jour de moins bien en montagne, hein, notamment dans les Alpes. Donc même quand Quintana l'avait attaqué dans les Alpes, Froome a répondu de suite, hein, et a même lâché Quintana. Donc je vois mal comment. Mais enfin, on verra bien, parce qu'aujourd'hui quand même dans la montée finale. Bon, c'est une montée de 3 bornes. Froome n'avait plus ses équipiers avec lui. Alors bon, est-ce que ça sera le même scénario dans les Alpes
que son
celui d'aujourd'hui?
Un peu,
ben écoute, je sais pas, on va voir dans les Alpes, mais là aujourd'hui, il avait plus personne autour de lui, donc il a maîtrisé la situation parce que ça durait 3 bornes et qu'il sait qu'il a quand même un matelas assez important par rapport à Quintana au classement général, 3 minutes. Donc il s'est pas affolé. Il est resté à son rythme et petit à petit, il refaisait l'écart qu'il avait perdu sur Quintana. Donc il est revenu sur Quintana sans s'affoler. Après dans les Alpes avec plusieurs cols les uns après les autres, est-ce que Froome il aura ses équipiers à ses côtés, et s'il est tout seul, ça sera peut-être pas le même scénario que celui d'aujourd'hui. Donc, à voir.
Ouais, il y a Richie Porte, hein, qui était absent, ouais. Et c'est ce qui change beaucoup, parce que Thomas a fait le boulot jusqu'à la fin, mais après au pied il s'est écarté complet. Bon, Richie Porte, a priori il dit qu'il est tombé sur cette étape en remontant des bidons et il a chuté. C'est dommage pour lui, mais bon. Il n'y a pas de mal pour Froome.
Le 32-16 ou le hashtag RMC Live pour poser vos questions à Thierry Bourguignon ou à Luc Leblanc. Marc est avec nous au 32-16. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
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 Bonsoir. Alors je parle à deux anciens coureurs là, et on a beaucoup parlé d'erreurs tactiques à la fin de la dernière bosse. Moi je crois que l'erreur tactique, Bardet a bien fait son. Il est parti un peu tôt, pardon. Par contre, Pignon, revenant sur Bardet, ne devait pas se mettre dans sa roue et devait déboucher tout de suite. Et le problème ne serait pas posé du retour du troisième. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un coureur cycliste, quand il récupère l'échappée en haut d'une bosse juste au moment de basculer, il débouche. Il débouche tout de suite et il ne se met pas dans la roue du gars qui vient de rattraper.
Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que Thibaut Pinot avait fait un super effort pour revenir sur Bardet et que ben, il avait il n'avait plus de force pour pouvoir lui en mettre une. Parce que c'est vrai que en débouchant, en giclant et en lui prenant 5 mètres, ça pouvait suffire. Parce que Bardet aussi était vraiment essoufflé. Je pense que, par contre, je ne suis pas d'accord avec vous en disant que Bardet a attaqué trop tôt. C'était sa technique. Hein. Lui, c'est un pur grimpeur. Il monte par à coup et c'est ce qui fait énormément mal aux adversaires. Donc s'il avait tardé à attaquer, je pense qu'il aurait eu plus de monde dans la roue. Hein, encore.
Si Bardet démarre, à mon avis, enfin, de toute façon, ça, on ne peut pas le juger, hein, parce que quand on est en course, on fait ce que l'on ressent, et bon, il n'y a pas de problème. Pinot devait absolument, puisqu'il y a un différentiel de vitesse, Pinot le rattrape. S'il pouvait tempérer, par exemple, à 5 mètres de Bardet, le temps de reprendre son souffle et débouffer. On se remet pas dans la roue d'un coureur qui va moins vite, surtout en haut d'une bosse quand on bascule, à mon avis.
Mais je pense qu'il était à fond aussi. S'il l'a pas fait, parce que moi aussi, quand je l'ai vu arriver sur Bardet, je me suis dit, il va lui en mettre une et il va gicler. S'il l'a pas fait, c'est qu'il était vraiment, parce qu'il a fait une belle remontée. Hein, il est monté au train, à son train super élevé, mais il a rattrapé quand même l'ensemble des coureurs et il revenait sur Bardet. Bon, malheureusement, c'est la suite. Hein.
Merci Marc, merci de nous avoir appelé au 32-16. On suit aussi le volet, le Final Six de la Ligue mondiale, demi-finale pour les Français face à la Pologne, Benjamin Glaise.
Et on s'oriente vers un cinquième set a priori. Je vous le rappelle, hein, les Français avaient bien débuté, ils menaient 2-7-0, 25-23 dans les deux premières manches. Ils ont perdu la troisième manche 25-19. Et pour le moment, c'est la Pologne qui mène 24-22. Service à suivre pour les Français et deux balles donc de 7 pour revenir de partout pour les Polonais.
Et on rappelle que voilà, c'est fait, service raté pour l'équipe de France. Donc 25-22, on va avoir un cinquième set.
Un cinquième set. Comme en 15 points. Avec 2 points d'écart.
Et on l'a eu aussi tout à l'heure. Ouais, c'est compliqué pour les Français. Tiens, Bourgui, Lucho, on parlait tout à l'heure de la troisième semaine de Chris Froome par rapport à Quintana. Oui. Sur l'hashtag RMC Live. Alors, il y a un petit débat qui se pose. Par rapport à 2013, justement, on a Rico 0013 qui nous dit en 2013, Quintana, lors de l'avant-dernière étape, se terminait au Semnoz et oui. Quintana va lâcher Froome à l'Alpe d'Huez. C'est ce que nous dit aussi Zephyr sur le hashtag RMC Live, que Froome avait craqué face à Quintana lors des dernières étapes, notamment à l'Alpe d'Huez il y a 2 ans.
Oh, ouais, c'était son semblant de coup de fringale.
Voilà, il avait géré son avance.
Ouais, je crois. Je sais pas. De toute façon, il faut espérer. Il faut espérer qu'il y ait un rebondissement. Pas qu'on enlève Froome des tablettes, hein, que ce soit Froome, Quintana ou autre chose, mais qu'il y ait un peu plus de suspense. Et je dirais même. Alors attention, la première étape des Alpes, c'est de nouveau le lendemain d'une journée de repos. Donc attention, la Sky, c'est très bien aborder cette journée de repos.
On l'a vu la semaine dernière. C'est ce que nous a dit Chris Froome. Attention.
C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'était eux qui avaient mieux préparé. Oui. Donc, essayer de planquer des mécanos ou des assistants pour voir ce que fait la Sky.
Non, mais bon.
Mercredi, hein, c'est Digne-les-Bains-Pralou le lendemain.
Déjà, il y a l'étape de Valence demain. Après, c'est. Gap. Demain, on est dimanche. Ouais. Après,
c'est. Pour ce Gap.
Donc, ouais. Mardi, la journée de repos. Et ça va passer très vite. Et de toute façon, il y aura 3-4 jours pour Quintana pour essayer de.
Là, faut qu'il commence tout de suite. Ouais.
De boucher le trou. Comme on dit, de boucher les 3 minutes. Et ça va pas être évident. Donc, il va bien falloir gérer cette deuxième journée de repos. Après, on verra bien. Tu sais, c'est toujours difficile de faire des prévisions comme ça, de dire voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. En attendant Froome, il est devant. En attendant Froome, il a la condition. Il a l'équipe derrière. Il a 3 minutes d'avance. Et il a un matelas assez important pour savoir gérer sa course par rapport à Quintana, parce que c'est le seul qui peut vraiment détrôner Froome dans les prochains jours. C'est bien Quintana. Donc Froome saura gérer l'écart qu'il y a, et même s'il prend un petit coup de buis dans un col, il saura gérer l'écart entre lui et Quintana, il n'y a pas de souci. Moi, je vois mal comment Quintana aujourd'hui peut revenir sur Froome, vraiment.
Le Gosbo sur le hashtag MFC Live est d'accord avec toi, Lucho. La Sky et Froome n'ont plus qu'à gérer les efforts jusqu'à Paris.
Tout à
et
fait.
Dans les Alpes, Froome va confirmer. On a Loïc au 32-16. Bonsoir, Loïc.
Bonsoir.
Loïc.
Salut.
Salut.
Salut à tout le monde. J'ai écouté vos analyses tout à l'heure, et puis notamment celle de Cyril Guimard qui parlait un petit peu d'amateurisme dans la fin de course. Aujourd'hui, j'ai relevé deux faits. Sepúlveda de Bretagne Séché Environnement et Bardet-Pinot. Je me demande aujourd'hui à quoi ont servi les oreillettes.
On va juste rappeler, Loïc, juste pour Sepúlveda, rapidement. Oui. Coureur qui s'est arrêté, hein, pour un ennui mécanique, si je dis pas de bêtises.
Oui, oui.
Sa voiture. Non, mais je vais le rappeler aux autres qui ont pas suivi.
D'accord.
Sa voiture était 100 mètres devant. Pour la rejoindre, il est monté dans la voiture de Vincent Lavenue. À l'arrivée, les commissaires de course viennent de le mettre hors course, hein, tout simplement. Voilà pour Sepúlveda. Et pour Bardet-Pinot, on en a beaucoup parlé déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, la question de Loïc, Lucho?
Alors, Sepúlveda, à quoi servit
ma question, c'est à quoi ont servi les oreillettes aujourd'hui, quoi.
Là, simplement, sur le Britchen, n'a pas utilisé son oreillette.
Sepúlveda avait l'oreillette aussi? Ça va savoir. Peut-être pas l'oreillette.
Et s'il avait eu l'oreillette, il n'aurait pas eu ce problème.
Mais le problème, c'est qu'il faudrait poser la question demain à Manu Hubert pour savoir s'il avait l'oreillette ou pas, ou alors elle était en panne.
Quand il casse sa chaîne, il se met sur le côté droit, là où il y a le public, là où toutes les voitures passent. À gauche, il n'y avait absolument personne, il aurait été forcément visible.
Ouais.
A priori,
quand tu casses une chaîne, s'il est à droite, il allait pas traverser la route, sachant que t'avais toutes les voitures qui arrivaient à bloc. En général, quand tu as un problème mécanique, tu dois toujours t'arrêter à droite.
Moi, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il était caché. Il était caché par la voiture de AG2R, qui s'était arrêté avant pour le dépanner.
Il s'est caché.
C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, sur l'antenne RMC avec Georges Quirino.
Donc, la voiture ne l'avait pas vue, mais il s'est arrêté 100 mètres plus haut ou 70 mètres plus haut. C'est dommage, mais par contre, pour la victoire finale, l'oreillette ou pas oreillette.
Alors, pour Bardet et Pinot.
Qui vous dit que Pinot, du moins pas Pinot, Bardet n'a pas eu la consigne de rester dans la roue de Pinot?
C'est pas ça mon analyse. Moi, je me dis, ils arrivent, comme Cyril Guimard l'a dit, ils arrivent, c'est à 1 contre 1, 50% de chance pour l'un ou pour l'autre. Et à l'arrivée, il n'y a aucune chance, puisqu'ils se font remonter. Au lieu de. Leur directeur sportif aurait pu leur dire à ce moment-là, il y a quelqu'un à 50 mètres, il y a quelqu'un à 20 mètres, il faut aller, quoi.
Moi, j'ai compris rien, là. Moi, attends, si les coureurs, ils ne sont pas capables de gérer eux-mêmes leur propre course et d'attendre ce que le directeur sportif va leur dire, le machin, il arrive derrière, il est à 20 mètres, oh là, fais attention, il arrive à 20 mètres. Alors, est-ce que tu. Allez, roule. Non, tu roules pas. Non, mais attends, le coureur, il est quand même capable de prendre des décision à deux bombes de l'arrivée et de savoir ce qu'il doit faire. C'est pas possible. Là, il n'y a plus de course. Alors, je veux dire, le coureur est incapable de prendre des décisions, des initiatives.
Oui, alors oui. Ça démontre le fait que l'oreillette leur empêche de prendre des initiatives, parce qu'aujourd'hui, on a bien vu qu'ils n'ont pas été capables de prendre des initiatives.
Non, moi je pense que l'oreillette, elle a pas servi là, parce que les voitures étaient bloquées. Ça ne portait pas. Donc l'oreillette ne servait pas. Et il y a eu, moi les mecs qui se sont plantés. Mais Romain Bardet, s'il avait participé et qu'il s'était fait avoir au sprint, on lui aurait reproché d'avoir participé. Et pourquoi t'as roulé, fallait se mettre dans la roue et faire le rat, et puis il allait plus vite que toi.
Je l'ai connu.
Il y avait un ponton qui revenait, il y avait une Durand qui revenait sur moi, j'ai roulé comme un con, je vais dire franchement, et malheureusement je me suis fait avoir au sprint. On me l'a reproché, ça. Alors que j'attends, et il y avait des plus grands sprinteurs qui arrivaient derrière.
Quand tu arrives pour la gagne, et que ils étaient deux, donc Thibaut et Romain Bardet.
C'était à un moment donné,
il faut pas se poser de questions, il faut rouler tous les deux.
Je suis d'accord avec Luc.
Mais bien sûr qu'il faut rouler, Thierry, t'arrives pour la gagne. Ben, c'est qui tout double? Tu prends le risque, c'est qui tout double? Tu vas pas attendre que les mecs, plus tu vas attendre.
Tu roules avec le meilleur des sprinteurs.
Non, mais attends, qu'est-ce que tu en sais?
Il est meilleur que toi.
Quand tu as gagné. Regarde, moi je vais te dire, le Grand Prix de Plouay, en 88, j'arrivais avec Charlie Mottet au sprint en haut à Plouay. C'était la dernière année que c'était sur le vieux circuit. Tout le monde donnait Mottet vainqueur. Mon directeur sportif me disait, il remontait à ma hauteur, il me dit, attends le groupe derrière. Je lui ai dit, non, j'attendrai pas le groupe derrière. Je roule, je suis devant déjà depuis un moment. Charlie, il est avec moi, mais il a pas gagné non plus. Moi, j'ai pas gagné, mais lui non plus. Eh bien, à la surprise générale, j'ai gagné au sprint.
L'autre chose.
Donc, si Bardet, il aurait très bien pu gagner le sprint devant, comme il dit, devant Pinot. On n'en sait rien. Et il fallait rouler.
On finit au sprint aussi, ouais. Nounou. Au sprint. Bourgui, oui. Lucio, Loïc, merci de nous avoir appelé au 32-16.
Juste un petit rapidement. Message pour demain, pour les amateurs qui font l'étape du Tour demain.
Ouais.
Un grand encouragement à tous mes amis de Sautron.
Très bien, ça arrive à la tout suivre, hein, l'étape du Tour, si je dis pas de bêtises. Ouais, super. Merci Loïc de nous avoir appelé au 32-16. À bientôt.
Merci à vous, Loïc. Merci. Bonne soirée.
Bah, Lucio, Bourgui, vous êtes en forme. Pas de journée de repos pour vous. Il n'y a pas besoin. Super.
Jamais de repos.
Il y a le klaxon. Ben, ça voilà. Veut dire qu'il
c'est
faut arrêter.
Repartir. Exactement.
Et en plus, le 26, il y a la Bourgui au Menuire.
Dimanche prochain. Hein, et l'arrivée des Champs-Élysées.
Ah ouais, le 26.
Et voilà. Ils ont changé la date. Comment on s'embête devant la télévision avec les clics de champagne sur le champ.
Ça klaxonne, Thierry.
Il faut vraiment partir là-bas. Ça bouchonne derrière. Les gars, demain. Merci.
Ouais, demain.
Merci. Allez, merci beaucoup, Bourgui. Merci.
Salut.
Merci, Luc. À très vite. Demain, évidemment, on se retrouvera. Toutes vos questions 32-16 et le hashtag RMC live dans quelques instants. Le foot démarre sur RMC. Il y aura l'after à 21h. Et puis, nous, on va partir du côté de Sousse parce que ce soir, il y a le premier match amical de l'OM de la saison.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
20h32 sur RMC. L'Intégral Tour qui continue jusqu'à 21h. À 21h, ce sera l'after. D'ailleurs, on vous pose une question aujourd'hui par rapport au Paris Saint-Germain. Venez réagir au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live. Le Paris Saint-Germain qui n'a plus les contraintes du fair play financier depuis 15 jours. Et pourtant, pour l'instant, son mercato se résume à deux noms. Celui du gardien de but allemand Kevin Trapp et celui de Benjamin Stambouli, sur le point de signer au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que pour l'instant, ce mercato parisien est un mercato médiocre? Ou alors qu'il faut attendre encore quelques jours? Appelez-nous 32-16 ou alors vos réactions, vos questions sur le hashtag RMC Live. On en parle dans l'after à partir de 21h. On est en train de suivre la demi-finale du Final Six de la Ligue mondiale. C'est à Rio, au Brésil, entre la France et la Pologne, et c'est très serré, Benjamin Glaise.
C'est très serré, effectivement, entre la France et le champion du monde en titre, l'équipe de la Pologne. Pour le moment, 10 partout entre les deux équipes dans la manche décisive. Je vous le rappelle, cette dernière manche, cette cinquième manche, se joue en 15 points. Il y a 10 partout pour le moment entre les deux équipes. Les deux premiers sets étaient pour la France, et c'est la Pologne qui est très bien revenue dans cette partie en remportant les deux sets suivants. 10 partout, on va trembler jusqu'au bout dans ce match.
On va trembler jusqu'au bout. Tout à l'heure dans la première demi-finale entre la Serbie et les États-Unis. Les États-Unis qui avaient battu la France hier lors du dernier match de poule et qui sont éliminés, battus ben justement dans le cinquième set décisif. Trois manches à deux par une Serbie assez surprenante, en tout cas plus forte que les États-Unis aujourd'hui. Et on va suivre tranquillement la fin de ce set avec des Polonais qui avaient été champions du monde aussi l'année dernière, Benjamin, entraîné par un Français, Stéphane Antiga. Donc forcément, on se connaît très bien. Pour l'instant, toujours pas d'écart créé par les Français. S'il y a un petit break là fait par les Français, Benjamin.
Et 12 à 10 pour les Français. Ils avaient déjà fait le break un peu plus tôt dans cette cinquième manche, menant 7-5, 9-7. Mais les Polonais étaient revenus de nouveau. Donc un break à l'avantage des Français. Je vous le rappelle, ça joue en 15 points, 2 points d'écart pour remporter ce match. Stéphane Antiga, le coach polonais, tu en parlais, Martial, qui était capitaine de cette équipe de France la dernière fois. Et bien que l'équipe de France s'est retrouvée dans le dernier carré de cette Ligue mondiale, c'était il y a 9 ans, ça date en 2006. Les Français avaient fini deuxième, médaille d'argent pour les tricolores. Cette fois-ci, ça va être compliqué face aux Polonais, même si 12-10 à l'avantage des Français, temps mort là demandé pour essayer de remobiliser les troupes alors qu'on va revenir sur le terrain. Et donc il faudrait marquer encore 3 petits points pour les tricolores pour s'offrir une finale.
On va juste rappeler aussi que l'objectif, c'est pas dans cette Ligue mondiale mais pour cette équipe de France dans les mois qui viennent, ce sera aussi de revenir à Rio l'année prochaine pour les Jeux Olympiques avec un tournoi de qualification olympique. Ce sera début janvier, ce sera pas simple pour les Français, mais ça permet d'engranger des points aussi bien sûr pour être mieux classé dans ces tournois de qualification olympique et être tête de série pour les Français qui marquent le 13e point, 13-10 sur une faute de fil du côté polonais, et donc les Français à 2 points de la finale.
À 2 points de la finale, on le rappelle, ce sera contre la Serbie. Les Serbes qui avaient battu en match de groupe ces Polonais 3-2. Ça avait été très serré aussi. En cas de défaite, les Français joueraient pour la troisième place pour une médaille de bronze. Ce sera contre les États-Unis qu'ils avaient déjà rencontré hier.
Parlons pas de médaille de bronze.
Bah oui, on espère beaucoup mieux. On espère au moins l'argent. Et cette finale qui tend les bras à l'équipe de France, 13-10 dans ce cinquième set. On a tremblé hein, tout ce match. C'est vrai que ça avait été, c'était très bien parti pour les Français qui menaient 2-7-0. On s'était dit que les Bleus avaient fait le plus dur, mais on se souvient hein, lors de la défaite contre les États-Unis hier, ils avaient montré un peu de fatigue les Français. Et là, ils ont eu un peu plus de mal à tenir. En tout cas, là, ça sent bon quand même pour les Français. 13-10, Martial et service pour l'équipe de France.
Ouais, ça a pris un petit peu de temps aussi parce que vous le savez, en volley, il y a du challenge vidéo aussi pour revoir les actions. Les Polonais qui avaient demandé ce challenge, mais finalement, ils avaient bien perdu ce point. Même si là, ils viennent sur une attaque de revenir à 13-11, ils sont au service et ça va être Benjamin, les Français qui vont devoir mettre en place une attaque avec, là on a quasiment le 6 majeur hein, sur le terrain avec notamment Erwin Edgapet qui fait un super match en attaque.
Un gros match, il est en attaque et pas seulement à la réception aussi, il a été très bon. Il a raté un service tout à l'heure hein, qui est resté dans le filet. C'est un peu le défaut de cette équipe de France là dans ce cinquième set avec 3 services ratés rendus à l'adversaire. C'est un peu la difficulté du moment.
C'est la prise de risque ça.
Voilà, on essaye de donner le maximum, de servir fort parce que derrière, les Polonais sont bien organisés et ça revient très vite. Là, les Français qui construisent leur attaque, mais ça sort et donc 13-12 pour l'équipe de France. Les Polonais qui reviennent tout petit point. Ça va être très très chaud. Voilà, c'est Rudy qui a sorti ce ballon. Il a essayé d'éviter le bloc polonais, mais le ballon est passé au-dessus et il sort 13-12.
Allez, 9 ans qu'on attend ça, hein, Benjamin. 9 ans qu'on attend 9 ans et une place comme cette ça médaille au sommet de la Ligue mondiale, en tout cas en finale. Bon, y a un temps mort demandé par Laurent Tilly pour l'instant parce que les Français 13-12, il y a 3 points d'avance et puis ça se resserre si proche de la fin du match. Faudrait pas que ça se passe comme pour les États-Unis tout à l'heure. Bon, pendant ce temps mort, je vais vous rappeler 2-3 petits résultats. Je vous rappelle que l'équipe de France de Coupe Davis est menée 2-1. Les Français ont perdu le double aujourd'hui. Tsonga et Mahut battus 3-7-1 par les frères Andy et Jamie Murray. Demain, les deux derniers simples décisifs à partir de 13h30 qu'on suivra bien sûr sur RMC. Il n'y a pas eu de médaille aujourd'hui au championnat du monde d'escrime du côté de Moscou. C'était les compétitions par équipe à l'épée garçons et filles. Les garçons champions du monde en titre qui finissent seulement 5e et les filles, elles, ont été battues pour la médaille de bronze et terminent à la 4e place. Demain, ce seront les dernières compétitions, dernier jour de ces championnats du monde à Moscou avec le fleuret par équipe. On a une balle de match pour l'équipe de France au volley, Benjamin.
Balle de match, c'est tout un symbole, c'est Ngapet, hein. C'est la star de cette génération de volleyeurs français qui sur un match très puissant permet à l'équipe de France d'obtenir cette balle de match de finale pour l'équipe de France. Service à suivre pour les Français qui vont tenter d'arracher cette victoire face à la Pologne. On le rappelle, la Pologne championne du monde en titre. Et là, c'est la France qui va servir pour obtenir peut-être cette finale et puis faire aussi bien qu'il y a 9 ans et cette médaille d'argent obtenue en 2006, alors que là on voit c'est Thierry, l'entraîneur des Bleus, qui on le sent nerveux, on le sent stressé, cette équipe de France en tout cas qui est très très courageuse, on le rappelle, avec un changement,
on change le passeur devant pour être un petit peu plus haut peut-être au contre sur l'attaque polonaise. Allez, on va suivre 14-12 pour l'équipe de France, donc Deux balles de match
pour l'équipe de France. On attend le service à suivre les Français. C'est parti à l'instant. Voilà, c'est bien réceptionné par la Pologne qui va construire son attaque sur le côté droit et ça passe 14-13 pour l'équipe de France. Il reste encore une balle de match
pour les Polonais
qui vont servir. Ça va être à la France de construire son attaque et d'aller chercher cette finale à Rio de cette Ligue mondiale avec les Polonais qui vont servir donc tout de suite. Je vous le rappelle, encore une balle de match, 14-13. Le premier à 15 avec 2 points d'écart sera qualifié sera en finale avec un temps mort demandé à Martial à l'instant du côté polonais pour essayer de construire au mieux le système qui va suivre pour ce point qui est très très important pour l'équipe de France, on le rappelle, avec une équipe de France très soudée qui a montré beaucoup de courage durant ce match. On le rappelle, hein, il menait 2-7 à 0. On pensait que le plus dur était fait pour les Français de l'équipe d'Erwin N'Gapet. Et finalement, eh bien, les Polonais, champions du monde en titre, hein, ils ne sont pas pour rien. Ils sont revenus dans cette partie au forceps. Ils sont montés en puissance sur le troisième et quatrième set qu'ils ont porté assez facilement face à cette équipe de France. Et donc là, on est actuellement dans la cinquième manche. Et voilà. Et c'est la Pologne qui va servir beaucoup de tension du côté polonais avec peut-être un service puissant. Non, on assure côté polonais. C'est reparti. Et c'est N'Gapet qui est contré malheureusement sur son smash. Et donc 14 partout. On va avoir du suspense jusqu'au bout avec donc 14 partout. Il faut 2 points d'écart. Et donc les deux équipes à égalité. L'équipe de France qui a peut-être laissé passer sa chance. On ne l'espère pas en tout cas, Martial.
On est en train de suivre cette demi-finale, 5e set du Final Six de la Ligue mondiale entre la France et la Pologne. Dans quelques instants, on partira du côté de Sousse pour du foot avec le premier match de l'Olympique de Marseille cette saison, premier match amical face à l'Étoile sportive du Sahel. On sera avec notre envoyé spécial RMC Sport, Mohamed Bouafsi, alors que la France a une
et deuxième balle de match pour les Français. Et Erwin N'Gapet qui s'est rattrapé de son smash raté juste sur le point précédent. Là, il a fait une petite pichenette pour placer le ballon juste au-dessus du bloc. Et donc, ça fait 15 à 14 pour cette équipe de France qui va servir donc une nouvelle fois pour le match. La troisième balle de match déjà pour les Français. Et c'est Lafitte là qui va servir, qui vient de servir. Là, les Polonais qui construisent leur attaque et c'est une balle de match de nouveau sauvée pour les Polonais. Le contre raté là du bloc français, le ballon retombe dans leur zone et donc ça fait 15 partout entre les deux équipes, 2-7 partout je vous le rappelle, et 15 partout donc dans cette cinquième et ultime manche. Je vous le rappelle, hein, c'est la Serbie qui est le premier qualifié pour cette finale de la Ligue mondiale. Ils ont battu les États-Unis juste avant cette demi-finale de l'équipe de France 3-2 au bout du suspense. Du suspense il y a aussi ici avec l'équipe de France qui réussit à obtenir une nouvelle balle de match,
quatrième
balle de match pour l'équipe de France, 16-15 sur le service. Donc service à suivre pour les Français qui ont du mal sur le service, qui ont beaucoup forcé. On va voir s'ils essayent de forcer de nouveau, s'ils tentent l'ace ou s'ils essayent d'assurer. C'est parti pour cette quatrième balle de match pour l'équipe de France et les Polonais qui se matchent. Et voilà, c'est fait sur un compte d'Erwin N'Gapet comme un symbole. Le joueur qui joue actuellement en Italie, qui est la star de cette équipe de France et qui donne la victoire pour les Français qui rééditent leur exploit de 2006. Ils avaient été en finale, ils avaient perdu en finale, ils avaient obtenu la médaille d'argent. Et bien là, c'est de nouveau fait, de nouveau une finale pour cette équipe de France qui bat donc les champions du monde en titre, les Polonais, 17-15 dans cette ultime manche, alors qu'on voit le ralenti, peut-être une discussion justement autour de ce contre d'N'Gapet. Il a peut-être franchi la ligne centrale, on va le voir sur ce ralenti peut-être. Non, a priori, ça devrait le faire pour cette équipe de France. Donc l'exploit pour cette équipe de France de handball.
Bah, on le voit,
ils sont fous de joie. Et donc deuxième finale dans l'histoire
du volley,
de l'équipe de France du volley.
Demain la finale, on la suivra aussi sur RMC. 13h30, ce sera France. 16h30, ce sera France. Serbie. Merci beaucoup Benjamin Glaise. Le foot dans un instant, 20h44 dans l'intégral tour. On part en Tunisie à Sousse. Retrouvez Mohamed Bouafsi parce que l'Olympique de Marseille joue son premier match amical de la saison contre l'Étoile sportive du Sahel.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
20h46 dans l'intégral tour. Le football, l'after, ce sera à partir de 21h jusqu'à 23h, mais d'abord on part du côté de Sousse, en Tunisie, pour ce soir le premier match amical de l'Olympique de Marseille face à l'Étoile sportive du Sahel. Et on est avec Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Marcel, bonsoir à tous.
Alors Mohamed, évidemment au stade de Sousse, on se rappelle il y a 3 semaines maintenant de l'attentat qui avait fait 38 morts. Du coup ce match, tu es au stade Mohamed, est-ce que ça se passe dans une ambiance particulière ou c'est une ambiance festive comme on aime dans le monde du sport ?
Non, je peux te confirmer, Marcel, que c'est une ambiance festive et que c'est une très belle ambiance. Franchement, c'est une ambiance exceptionnelle. Tous les habitants de Sousse se sont rués sur le stade de l'Étoile Sportive de Sousse pour fêter ce match contre l'Olympique de Marseille. Il faut le savoir, la réception de l'OM, c'est le premier grand événement en Tunisie depuis l'attentat du 26 juin 2015, l'attentat de l'Impérial Rio Maraba qui avait coûté la vie à 39 personnes. C'est une ambiance exceptionnelle. On attendait 19 000 personnes au stade ce soir à guichet fermé. Et bien, je peux vous dire qu'on aura même un petit peu plus que 19 000 puisque des gens essayent de se faufiler en fait dans le stade pour assister à ce match. Vraiment, recevoir l'Olympique de Marseille pour tous les habitants de Sousse, c'est une fête incroyable. Je discutais il y a quelques minutes avec le président de l'Étoile Sportive de Sousse qui me disait tout simplement que c'était le premier grand événement de l'année pour le club de Sousse et qu'ils étaient heureux que l'OM ait confirmé leur venue après l'attentat de Sousse. Et sur tous les visages des Tunisiens ce soir, on peut voir une seule chose, le sourire et la joie de recevoir l'Olympique de Marseille.
Et tu as aussi rencontré Vincent Labrune hein, qui t'a dit ce match de Sousse va bien au-delà du football. D'ailleurs, interview à retrouver sur le site rmcsport.fr. Mohamed, parlons aussi du côté sportif pour l'OM. Premier match amical pour Marcelo Bielsa et son staff aussi. C'est important de faire jouer ses garçons et petite revue d'effectifs, même si à Marseille, l'effectif est pas encore au complet hein, pour cette saison.
Ouais, pas encore au complet puisqu'on attend encore des joueurs du côté de l'Olympique de Marseille, le Mercato va continuer, mais c'est important, c'est un match très important, en tout cas pour Marcelo Bielsa. C'est le premier match de l'Olympique de Marseille cette saison, le premier match amical pour préparer la saison prochaine et surtout pour commencer à préparer les automatismes entre les joueurs. Un match qui était attendu par tous les supporters de l'Olympique de Marseille, mais aussi par les joueurs. J'ai pu en croiser certains à l'hôtel qui étaient pressés de démarrer cette saison. On va voir les titulaires, les cadres importants de l'Olympique de Marseille. Alors pour tout te dire, Marcel, pour être très franc, on n'a pas encore la composition d'équipe parce qu'elle n'est toujours pas arrivée aux journalistes alors que le match va débuter d'ici une dizaine de minutes. Mm-hmm. Mais en tout cas, il va y avoir des très grands noms sur la pelouse du côté de l'OM. Steve Mandanda, Nicolas Nkoulou, Florian Thauvin ou encore Mario Lemina. En deuxième période, on devrait voir Mitchy Batshuayi et on va découvrir même des petits visages puisque Sané, un latéral gauche, un tout petit jeune de l'OM apprécié par Marcelo Bielsa, va connaître son premier match avec l'OM en pro, on va dire, même si c'est un match amical. Et je peux vous dire que c'est un très grand espoir de l'Olympique de Marseille selon les observateurs de l'OM.
Merci beaucoup Mohamed Bouafsi en direct de Sousse en Tunisie pour le premier match amical de l'Olympique de Marseille ce soir et c'est face à l'Étoile Sportive du Sahel. Ce soir aussi, on va faire un petit gros plan sur Toulouse, le club toulousain 17e seulement l'an dernier. Très discret pour l'instant dans cette intersaison et on est avec Dominique Arribagé, l'entraîneur de Toulouse. Bonsoir Dominique.
Bonjour.
Dominique Arribagé, entraîneur de Toulouse, c'est la période du mercato mais aussi des matchs amicaux. Dominique, victoire 2-0 hier contre Ajaccio. On a des entraîneurs, notamment des gens sur RMC comme Roland Courbis qui aiment pas trop la période des matchs amicaux, qui en font très peu avec leur club. Vous en faites quand même régulièrement. Vous pensez que c'est des moments importants pour l'avant-saison ?
Ah ben oui, parce qu'on est dans toute la préparation, donc au départ elle est principalement axée sur le côté athlétique, pour mettre les joueurs à un niveau de forme et c'est un peu leur socle pour tenir toute la saison. Mais après, rapidement, on arrive dans le domaine un peu tactique et les matchs amicaux justement permettent de se mettre à peu près au point. Donc c'est vrai que les entraîneurs qui en font moins que d'autres, bon moi je suis partisan d'en faire quand même 5 ou 6 en préparation pour être bien affûté pour le premier championnat.
Alors à Toulouse, Dominique Arribagé, il y a enfin eu une recrue cette semaine. Mauro Goycochea, gardien de but, uruguayen. Ouais. Déjà, il arrive pour être numéro 1 chez vous
ou pas? Oui, après, enfin, moi, je suis un entraîneur qui n'aime pas forcément les statuts de numéro 1. C'est le plus performant qui jouera, donc voilà, j'espère qu'il le fera assez pour avoir sa place, mais les autres ont leur chance aussi.
Bon, c'est la première recrue, est-ce qu'il y en aura d'autres? Parce que votre président Olivier Sadran, lors de la reprise, avait dit qu'il fallait réduire un petit peu la voilure au niveau toulousain cette année en termes de joueurs, en termes de nombre de joueurs. Vous attendez d'autres joueurs, vous, j'imagine?
Oui, bien sûr, j'attends deux autres joueurs, voire trois. Bon, évidemment, le plus rapidement possible pour qu'ils s'intègrent au mieux et qu'ils soient prêts pour le premier match contre Saint-Etienne le 8 août. Donc j'espère que d'ici la semaine prochaine, je pourrai avoir ces arrivées-là.
Est-ce que ces arrivées ne dépendent que d'éventuels départs à Toulouse ?
Non, je pense pas. Je pense qu'on est en capacité de prendre deux joueurs rapidement, bien sûr avec liés aux paramètres économiques, mais je pense que la semaine prochaine on aura quelques renforts et ça fera du bien pour redonner un peu de gaz entre guillemets au groupe.
Vous vous situez comment vous par rapport au cas, je mets entre guillemets bien sûr, hein, Wissem Ben Yedder qui a marqué hier d'ailleurs en match amical, donc évidemment vous avez il a toute votre confiance, mais on a entendu parler d'éventuels départs. Vous espérez encore pouvoir le conserver, vous l'entraîneur?
Moi le deal il est clair, et Wissam il est avec nous tant qu'il est avec nous, ben, je compte sur lui. Donc pour l'instant il montre un très bon état d'esprit, il est performant dans ce qu'il fait sur le terrain, donc il se prépare bien, au moins il fait partie intégrante de mon groupe et je travaille avec lui pour aborder le championnat avec lui. Après demain tous les paramètres économiques sont réunis pour le président pour le vendre, et auquel cas ben, on fera face, mais moi je travaille comme si il faisait partie de mon groupe.
Dominique Caribagé, la saison dernière, vous êtes arrivé en cours de saison. Là, vous avez vos hommes sous la main dès le départ. J'imagine qu'en tant qu'entraîneur, pour vous, ça change la donne.
Bah, disons qu'on travaille. J'ai récupéré une situation qu'il fallait gérer un petit peu dans l'urgence, avec une grosse pression de résultats et surtout sauver un club de la relégation. Donc c'est vrai que ça a été une formation accélérée, on va dire, à tous les niveaux. Là, le fait de reprendre un groupe dès le départ, avec une période de préparation, ça permet de l'aborder avec plus de sérénité, de tranquillité, et d'aller plus en profondeur dans les domaines dans lesquels on veut travailler, notamment tactique ou physique. Donc voilà, ça permet d'être plus serein.
Ce serait quoi une saison toulousaine réussie? C'est quoi l'objectif cette année?
J'ai du mal avec ce genre de,
ouais, pas de chiffres.
Choses, parce que j'ai pas forcément de limite, je sais pas quel sera notre effectif, la valeur de notre effectif. Déjà, il faudra attendre en fonction des arrivées et d'éventuels départs.
Donc l'objectif, vous le fixerez le 2 septembre, à la fin du mercato?
Oui, puis enfin, après, se dire quoi, qu'on veut être 6e ou 13e, ça dépend tellement de la façon dont se goupillent les choses que moi j'ai pas forcément de limite. Pourquoi, si on est 6e, pourquoi pas 5e, si on est 8e, pourquoi pas 7e? Bon, enfin, j'espère faire une belle saison avec les joueurs que j'ai, que j'aurai sous ma main, et puis on fera la meilleure saison possible. Donc l'objectif, je sais pas si on peut le chiffrer réellement, quoi. À partir du moment où on dit qu'on sera pas champion, après c'est quoi la marge qu'il y a entre un 7e et une 15e place parfois.
Et votre président ne vous a pas donné, lui, d'objectif chiffré?
Je crois qu'il a donné entre 6 et 12 ou 13, quelque chose comme ça. Voilà, on va essayer de s'approcher de la meilleure place possible.
Dans votre staff, Dominique Caribagé, il y a un ancien athlète, Leslie John, qui oui, intègre officiellement le staff pour la préparation physique, hein, c'est ça, Dominique? Oui. C'était une volonté de votre part? Qui a eu l'idée de faire venir Leslie John comme ça pour renforcer le staff?
Ben, le référent en termes de préparation physique, déjà, c'est Baptiste Hamid. Et c'est lui, comme on cherchait quelqu'un pour le seconder, c'est lui qui me l'a proposé. Donc, le profil m'a plu, amener une compétence autre.
Il apporte des choses différentes déjà, enfin, vous le sentez que ça peut être un œil neuf pour combler ou pour apporter une nouvelle patte?
Disons qu'il a sa connaissance du haut niveau dans son domaine de prédilection, l'athlétisme, et je trouve que c'était intéressant d'amener ça aux joueurs. Bien sûr, le transférer rapidement dans le domaine football, et pas rester simplement sur la course et travail d'appui ou de gamme. Donc, mais moi, je suis content de la façon dont se passe déjà la préparation. Et les joueurs ont l'air de vraiment adhérer à ce que tous les deux proposent. Donc, voilà, je pense qu'on travaille bien.
Bon, ben parfait. Merci beaucoup, Dominique Caribagé.
Avec plaisir. Et puis, bonne saison à tous.
Eh ben, bonne saison. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
20h56 sur RMC, avant de passer la main dans quelques secondes à Guillaume Laniel et l'after, juste pour vous rappeler quelques résultats, on vient de le vivre sur RMC, la France est en finale de la Ligue mondiale de volley, ça n'était plus arrivé depuis 9 ans, victoire 3-7-2 contre les champions du monde polonais. L'équipe de France de Coupe Davis qui est menée 2-1 ce soir, les Français ont perdu, le double de Tsonga Mahu battu par les frères Murray, la victoire de Stephen Cummings à l'arrivée à Mende sur le Tour de France devant deux Français, Thibaut Pinot et Romain Bardet, puis toutes les réactions au décès de Jules Bianchi, le pilote de Formule 1 décédé hier soir. Eh bien, elles sont à retrouver bien entendu sur le site rmcsport.fr. C'est l'heure de l'after. Guillaume Laniel, rebonsoir.
Rebonsoir. Ça fait plaisir le volet. Hein.
Alors,
c'est la bonne nouvelle de la soirée. Ouais.
Quoi de beau programme ce soir,
Guillaume. Alors pas mal de choses effectivement. On va parler du Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu la levée des sanctions du fair-play financier il y a une quinzaine de jours. Et pourtant, du côté du mercato, ça s'agit pas énormément, avec seulement deux arrivées, celle du gardien allemand Kevin Trapp, hein, vous le savez, et puis est attendu aux États-Unis où se trouve en stage le Paris Saint-Germain, l'ancien Montpellierin Benjamin Stambouli. Qu'est-ce que vous pensez de ce mercato un petit peu timoré? Venez évidemment nous donner votre opinion sur le 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Le mercato show 21h24. Toutes les dernières informations avec notamment le départ de Jordan Amavi du côté d'Aston Villa. On parlera de Toulouse et tu en as parlé, Martial, évidemment, avec l'entraîneur Dominique Arribagé. Mercato plus que calme. Qu'est-ce qu'on peut attendre du TFC pour la saison prochaine? Lyon, Marseille, Monaco sur le pont avec des matchs amicaux ce soir. On en parlera également, sans oublier les infos du jour. Le foot fiction, nous parlerons de Franck Ribéry, le quiz de l'after en toute fin d'émission. L'after, donc 21h-23h ce soir avec Karine Galli et Jonathan Massia. Vous intervenez, vous le savez, le 32-16 et le hashtag RMC Live est ouvert ce soir.